pour nous, les Africains, ce préjugé, cet élément, ce concept n'est pas si noir que ça. Le si noir là, qui est objet de controverse, pour nous personnellement, ne nous choque pas directement dès lorsque nous avons évolué dans la réflexion et qu'à travers le concept noir, nous voyons plus la situation ténébreuse que génèrent les différentes réalités socio-économiques désastreuses des pays africains. Il faudrait voir l'attitude des chercheurs selon qu'ils sont de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Il est vrai que pour les Américains du Nord, le concept noir choque directement et ça fait directement référence à la couleur. Et c'est ainsi qu'il y a eu toute cette controverse que nous avons connue. Mais sinon, on sent quand même que la recherche était plus de pouvoir de déconstruire ce préjugé de manière à mieux regarder l'avenir.
Est-ce qu'on peut facilement dire que la diaspora africaine est une conséquence de l'échec de l'indépendance quelque part?
C'est très complexe pour répondre à cette question, parce que quand on parle de diaspora aussi, il faut dire que c'est vague. Est-ce qu'on veut parler de l'élite africaine de la diaspora? Ça peut être l'élite universitaire, scientifique, ça peut être une élite politique, parce qu'il y en a aussi des gens de la diaspora qui ont accédé à des fonctions politiques dans les pays d'accueil. Ça peut être une élite d'affaires, tout comme ça peut être la masse populaire, même la masse même de la diaspora. Alors là, la question devrait varier par rapport aux différentes catégories. Lorsqu'on voit la catégorie de la masse, parce que c'est celle qui est plus importante en termes numériques, on pourrait dire oui, dans la mesure où les pays africains n'ont pas su, 50 ans après, créer les conditions susceptibles de garder ces jeunes dans leurs différents, du moins les différents États n'ont pas su garder, créer les conditions pour garder ces jeunes dans ces différents pays. Or, jusqu'au début des années 70, c'est vrai, peut-être avec la survivance des structures coloniales, beaucoup de jeunes Africains ne rêvaient pas à aller à l'étranger. C'est avec la crise qui ne faisait que s'accentuer que nombre de jeunes ont cherché à migrer vers l'étranger pour pouvoir trouver mieux, comme ils le disent. Mais maintenant, une autre facette de la question, c'est par rapport aux retombées de cette diaspora envers leur pays d'origine respectif. Vous entendez souvent parler des questions des transferts, aussi bien transfert des biens que transfert des fonds. Est-ce que ces transferts contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de leur pays d'origine? C'est ça toute la question qui est la plus fondamentale.
Est-ce qu'on peut s'entendre que la diaspora n'est pas un tout finalement? On ne peut pas simplement parler de diaspora sénégalaise ou de diaspora camerounaise, prenant l'exemple du Cameroun, comme une entité, puisque par exemple ici à Montréal, on retrouve dans la diaspora les gens qui s'organisent en village, en communauté, et on retrouve finalement la même organisation quelque part qu'on avait au Cameroun.
Effectivement, on ne peut pas appréhender la diaspora comme un solide bloc monolithique. La diaspora est, disons, si on prend celle du Cameroun, elle est diverse. Alors, on a des étudiants, on a des gens qui sont des professionnels, il y en a qui sont venus, comme on dit dans notre milieu camerounais, se chercher. Alors, il y a toutes sortes de gens, il y a des gens qui se disent réfugiés politiques. Alors, donc, il y a toutes sortes de gens dans ce corps qu'on appelle la diaspora. Et donc, elle est elle-même diverse. Et puis, effectivement, finalement, ethniquement, si on peut parler comme ça, elle est aussi diverse. Alors évidemment, on se regroupe par affinité, ça peut être tribal, par affinité culturelle, et parfois par affinité aussi nationale, parce que si je prends le cas des Camerounais, il y a une organisation que j'ai d'ailleurs participé à créer qui s'appelle l'ACC et qui essaie de chapeauter, si vous me passez l'expression, toutes les associations culturelles camerounaises et qui essaie de défendre, en fait, effectivement, et qui essaie de promouvoir l'intégration des Camerounais, de cette diaspora camerounaise diverses et variées, qui arrivent ici et qui essaient de s'intégrer ici. Alors donc, on ne peut pas envisager cette diaspora en un solide bloc. C'est une diaspora qui est diverse et qui a des préoccupations diverses et qui a des actions diverses et qui souvent a des résultats divers aussi dans ces différentes actions-là. Et l'envisager dans un solide bloc, c'est encore là faire une erreur, comme envisager l'Afrique comme un tout, un solide bloc monolithique, alors qu'il y a plusieurs États qui n'ont parfois souvent rien à voir les uns avec les autres, culturellement parlant. Et quand on prend un pays comme le Cameroun, qui est à l'Afrique en miniature, donc on peut voir toute la diversité qui traverse ce pays et qui se reflète effectivement dans sa diaspora, tout au moins ici à Montréal.
Vous étudiez, Monsieur Pascal Capadama, la question de la diaspora et plus que ça de l'immigration. Est-ce que, voilà, on vient de faire 50 ans depuis 1960, dans les prochains 50 ans, quel rôle jouera cette diaspora dans certains disent, le thème de les festivités ici, c'était reconstruire pour le Congo, dans la reconstruction ou dans l'unité, si on peut dire. Quel rôle peut jouer cette diaspora?
Ce serait prématuré maintenant de pouvoir dire le rôle que peut jouer cette diaspora. C'est vrai, on peut penser à plusieurs rôles dans leur participation au développement, mais tout dépendra des différentes politiques migratoires qu'auront à instaurer les différents pays africains.
Parlons.
Parce que ce sont ces politiques migratoires qui permettent de maintenir un certain rapport entre le pays et les migrants extérieurs, comme nous les voyons dans certains pays, par exemple l'Israël. On sait comment l'Israël se construit grâce à une politique migratoire. Les pays maghrébins, n'en parlons pas. Ils ont également une politique migratoire. La Chine, n'en parlons même pas. Donc c'est pour dire que tout dépendra des politiques migratoires des différents pays. Et en rapport avec ça, pour aider certains pays africains à construire cette politique, nous sommes impliqués dans une vaste étude, il n'y en a pas eu beaucoup jusque-là, une vaste étude sur les migrations internationales, Migration Between Africa and Europe. C'est un projet MAFE financé par l'Union européenne qui implique trois universités africaine, à savoir l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo, l'université d'Accra en République du Ghana, et l'université Cheikh Anta Diop à Dakar au Sénégal, et six universités et centres de recherche européens, et le tout sous la coordination de l'Institut national d'études démographiques de Paris. Et c'est un projet qui va jusque en 2012. Toutes les équipes qui ont mené les enquêtes concomitamment, maintenant sont soit en train de finaliser la saisie et ou sont encore ou ont déjà commencé les analyses. Et nous sommes convaincus que les résultats de ces études, qui seront basées sur des enquêtes aussi bien biographiques que des ménages, contribueront beaucoup à l'élaboration des politiques migratoires pour les pays concernés. Mais enfin, jusque-là, ils ont été pris comme pilotes, mais l'étude pourrait s'étendre sur d'autres pays selon la disponibilité des financements.
Justement, vous parlez de politique migratoire, on se rend compte, et vous le dites si bien, qu'il y a très peu de pays dans l'Afrique subsaharienne qui ont de véritables politiques. On peut peut-être penser au Sénégal, par exemple. Le Sénégal a un ministre des Sénégalais de l'extérieur. Jusqu'à quel point on peut appliquer ce modèle-là au Congo, par exemple?
Mais je vous informe que même le Congo, peut-être par mimétisme, avait créé un ministère des Congolais à l'étranger. Mais c'était un mort-né parce que quelques mois après, on a dû fermer le ministère. On n'a pas vu les retombées de ce ministère. Le problème qu'il a est que si on essaie de mettre le tout plus sur le plan politique, parce qu'il faut répartir des postes ministériels, parce qu'il faut trouver des dividendes financiers, entre guillemets, à pouvoir distribuer à certaines personnes sans pour autant politique réelle, eh bien, ça n'ira pas. Je vous informe que lorsque nous lancions l'enquête sur l'immigration internationale à Kinshasa, nous avions invité ce ministère qui était surpris de l'apprendre l'existence de cette enquête. Bon, c'est par courtoisie que nous l'avons fait, mais nous savions qu'il n'avait aucun élément, aucune donnée. Et bien qu'à l'époque, parce que c'était en avril de l'année passée, il disait qu'ils attendaient les résultats de nos travaux, mais maintenant qu'ils n'existent plus. Donc, j'insiste beaucoup sur l'importance des politiques migratoires. Des politiques migratoires qui doivent être favorables, d'une part, à la participation de ce qu'on appelle la diaspora, des diasporas respectives dans leur pays d'origine et à leur implication dans le développement de leur pays d'origine.
Si je peux ajouter effectivement et compléter ce qu'il dit, il faut toujours donner un contenu à quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a une politique, j'imagine qu'au Sénégal, vous avez parlé du ministère des Sénégalais de l'étranger, ils y ont réfléchi et ils ont mis un contenu derrière ce qu'ils appellent le ministère des Sénégalais de l'étranger, donc un contenu avec des politiques, des programmes, etc. Alors, et ce qui ne s'est pas visiblement passé au Congo et qui est loin de se passer au Cameroun, parce que dernièrement, justement, parlant de diaspora, il y a eu une équipe, je crois, qui s'est rendue ici à Montréal, aux États-Unis et en France, et qui est venue parler, qui soi-disant est venue parler des questions de double nationalité, et finalement on s'est rendu compte que le ministre était contre, le ministre des Affaires étrangères ou des Relations extérieures, comme on l'appelle au Cameroun, était contre, et a d'ailleurs désavoué le chef de mission, puisqu'il a été démis de ses fonctions pour avoir fait des déclarations qui débordaient le cadre de ses compétences. Alors, donc, on voit effectivement que mon collègue plaide pour des politiques. Effectivement, on voit que dans certains pays, on est loin de ces politiques-là et même quand souvent, à un certain moment, les Camerounais, pour la plupart, c'était des étudiants, quand ils sortaient, ils étaient boursiers du gouvernement camerounais. On s'est rendu compte que même les responsables culturels des missions diplomatiques n'étaient même pas au courant de qu'est-ce qu'ils étaient devenus, ces étudiants. Avaient-ils fini? Quel était leur nombre? À l'époque, moi, j'étais étudiant à Paris et c'est nous qui, parfois, informions l'attaché culturel sur tel a terminé. On ne réfléchissait pas. Vous avez fait venir des gens, vous avez fait partir des gens à l'étranger, ils ont fini leur. Est-ce que vous vous préoccupez de ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'il y a une politique de retour? Alors, avant de parler d'une politique migratoire, donc il y a déjà un certain nombre de choses qui vraiment sont loin d'être faites avant qu'on en arrive à une politique migratoire, je l'espère, au Congo comme au Cameroun.
Le débat qui se déroule actuellement, organisé par le CERIOM et qui est à féliciter, devrait aboutir à une réflexion approfondie de la prise de conscience réelle des pays africains sur le rôle qu'ils devraient assumer dans le concert des nations de manière à équilibrer les rapports sur tous les plans.
Le colloque a pour but de déconstruire effectivement le regard que l'Occident ou que l'autre a sur l'Afrique. Je crois qu'il faudrait déjà que l'Africain lui-même commence à avoir un regard sain, S-A-I-N, là, sur lui-même. C'est-à-dire, ce que j'entends par un regard sain sur lui-même, c'est-à-dire un regard sans complaisance. C'est-à-dire que se regarder sans complaisance pour effectivement voir ce qui ne marche pas et avoir le courage de dire, OK, ça c'est de ma responsabilité, ça n'a pas marché, et effectivement apporter des solutions qui pourraient faire en sorte que finalement ça marche, pour effectivement se permettre d'avoir un regard aussi sur le monde, parce que si on ne peut pas se regarder, soit on ne peut pas regarder le monde, et puis on ne peut pas tout le temps être justement le jouet d'acteurs qui évidemment défendent leurs intérêts. On ne peut pas leur interdire de défendre leurs intérêts. Alors donc, il faudrait qu'on commence déjà par bien se regarder soi-même, afin de pouvoir aussi peut-être regarder le monde au lieu d'être tout le temps être regardé par le monde.